Maxime, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Maxime, je crois que tu es ce qu'on appelle un zèbre.
Oui. Alors zèbre, je pense que c'est une notion assez très subtile. C'est sûr que si on regarde l'échelle du QI, ce que tout le monde ce qu'on regarde dans la société de manière générale, je suis pas clairement surdoué, mais je suis pas dans la norme non plus. Je suis dans les 5-6% de la population. Mais ça, c'est juste un test qui est un certain type de logique. Mais je pense que le cerveau humain est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je suis arrivé par là grâce à un travail sur moi, donc un retracement de l'histoire familiale, des vécus affectifs, intellectuels, au boulot, toutes les situations de la vie m'ont amené vers là. Et ce qui me résume le trait le plus prononcé chez moi, je dirais, c'est l'empathie. Je suis hyper empathique, mais il n'y a pas de mots pour décrire. Je suis une éponge, je suis une véritable éponge. Je vois, j'observe les émotions des autres, mais avec
une acuité.
Ah oui, une acuité très importante. Mais à force d'observer les autres, parce que c'est ça l'empathie, c'est qu'on finit par comprendre, observer les autres. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont aussi un potentiel. Et pour moi, il y a quelque chose aussi de développemental. Et je pense que dans le cerveau humain, il y a des mécanismes. Pour moi, l'hypersensibilité est quelque chose de très culturel. Quand on regarde qu'il y a des gens qui sont, par exemple, très sensibles au bien-être animal et d'autres pas du tout, des gens qui sont sensibles à l'être humain et pas du tout à l'animal, ou qu'en France, le chien et le chat sont protégés alors que dans d'autres pays, on les mange. C'est quelque chose, pour moi, qui est... Je pense qu'on a beaucoup de personnes ont à peu près la même sensibilité à la douleur, parce que finalement c'est ça. Les seules personnes qui ont une vraie insensibilité, c'est les gens qui ont une insensibilité à la douleur. Mais quelque part, elles ont d'autres mécanismes qui compensent. Mais pour moi, il y a toujours la même énergie, mais en fait, elle est répartie différemment. Et ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont se dire hypersensibles aux choses qui les font souffrir. Et pour moi, alors si là j'amène directement à une solution, j'amène directement à un résultat, en fait, il faut se battre contre soi-même. Si on veut être heureux dans la vie, il faut toujours être remonté, il faut toujours se regarder soi-même et voir les travers dans lesquels on s'amène par facilité et les choses qui sont très difficiles, auxquelles on est en même temps très sensible, c'est très dur, et pour lesquelles il faut qu'on se batte. Et moi, je vois des gens qui sont complètement dans la dépression, qui s'enferment à perdre des capacités alors qu'ils avaient un coup de potentiel. Et je vois des gens qui n'avaient pas forcément un potentiel à la base et qui, avec leur combativité, sont arrivés à quelque chose. Donc pour moi, quand on fait une mesure des capacités cognitives, c'est pas seulement une image à un instant T, c'est aussi la capacité à avancer, à une évolution entre deux phases, en sachant que c'est pas forcément quelque chose de linéaire, ça peut être quelque chose d'exponentiel.
C'est ce qu'on appelle un potentiel.
Oui, mais le potentiel en lui-même, il peut évoluer. C'est-à-dire que le cerveau est quelque chose de plastique. Et finalement, on modifie notre propre cerveau à acquérir. On acquiert des méthodes d'apprentissage. Donc si on acquiert des méthodes d'apprentissage, on évolue. Et je vois des gens qui ont eu des difficultés, mais qui peuvent décoller complètement. Et on le démontre pour d'autres types de pathologies. Je prends pour l'exemple de l'autisme. Donc c'est quelque chose qui se différencie par rapport à ce qu'on appelle la danse, l'autisme. On est arrivé aujourd'hui avec des méthodes où on modifie l'environnement de l'enfant, on lui fait fonctionner différemment, en stimulant l'environnement différemment, on arrive à modifier le développement de l'enfant. Donc quelque part, moi je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les gens qui sont surdoués, c'est les gens qui, je pense, qui réunissent le maximum de facteurs, que ce soit l'environnement, la génétique, le développement, enfin, que tout est favorable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pas enfermer les surdoués dans leur souffrance, etc., parce qu'ils souffrent aussi, ils ont aussi des capacités. C'est aussi de faire en sorte que tout le monde, même les gens qu'on dit non-zèbres, ils ont des capacités qui sont, comme moi j'observe, qui sont aussi bien, qui sont même parfois mieux que celles des 10 surdoués. Pour moi, les seules personnes qui vraiment ont pas de capacités, c'est les gens qui, par exemple, ont eu un AVC, qui ont perdu une grosse partie de leur cerveau, et où la plasticité ne pourra jamais rattraper les choses.
Donc, si je comprends bien, tu vois tout ça d'un aspect positif.
Complètement. Et à mon avis, c'est ce qui serait le mieux pour tout le monde.
Que penses-tu actuellement de l'enseignement tel qu'il est prodigué ?
Bah, je pense que dans l'enseignement, on devrait mettre en avant beaucoup plus la verbalisation. Les élèves qui ont des difficultés, c'est les élèves qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils comprennent pas, qui n'arrivent pas à dire qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que je dois poser comme question, reprendre la base. Ils paniquent, ils ont peur de l'échec. Alors qu'en fait, il faut déjà qu'ils parlent, qu'ils soient accompagnés, qu'on les prenne par la main et qu'on les amène eux-mêmes à leur propre autonomie. Et au-delà de la verbalisation, ensuite, il y a la spatialisation. La spatialisation, c'est voir dans l'espace, c'est voir les volumes, les interactions, la logique. Et pour moi, il y aurait une solution, ça serait beaucoup utiliser l'informatique qui permet de visualiser beaucoup de choses complexes, que tous les mécanismes d'apprentissage en mathématiques, c'est un gros problème quand même scolairement chez certains élèves. Et pour comprendre tous les phénomènes complexes, que ce soit la biologie, les phénomènes économiques, on peut modifier les méthodes d'apprentissage. Les méthodes d'apprentissage, c'est vraiment la meilleure moyen d'arriver à ce que l'élève acquiert sa propre autonomie.
Si j'ai bien compris, c'est oui, la métacognition par représentation.
Voilà, c'est ça. C'est que au lieu de penser par l'émotion, je panique, je vais pas le faire, ils utilisent leur tête. Mais pour gérer l'émotion, il y a quelque chose d'affectif. Et je pense qu'on a besoin des autres, on a besoin du rapport humain pour arriver à s'en sortir. Et il faut des gens qui soient déjà solides eux-mêmes et qui soient capables de comprendre les difficultés des élèves. Parce que quelqu'un qui a des facilités, moi je me rends compte qu'il y a des domaines où j'ai eu des facilités très tôt et d'autres pas du tout. Et c'est vrai que je ne comprends pas parfois, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les difficultés des autres parce que c'était tellement évident pour moi que je me souviens même plus comment j'ai compris les choses. Mais en même temps, pour d'autres sujets, quand j'ai commencé à me mettre face à mes propres problèmes et à vivre avec quelqu'un qui a des difficultés, ma copine, j'ai pu comprendre comment je pouvais, moi, l'aider, finalement. Et on y arrive. Alors, il faut de la patience, mais c'est possible.
Maxime, je te remercie beaucoup pour ton témoignage.
Et également, et j'espère surtout que ça permettra de faire avancer les choses.
Je te remercie, Maxime.